Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». La Maison Carrée est un temple romain hexastyle à 6 colonnes, achevé au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Elle est donc presque contemporaine du Christ. Elle est construite à Nemousus, qui est le nom antique de l'actuelle ville de Nîmes. Il s'agit à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ de la capitale de la tribu des Volsques Arécomiques, durant l'âge de fer, 8e-2e siècle avant Jésus-Christ, sous le possible toponyme de Namosicabo. Strabon et Pline rapportent qu'une peuplade celte se serait établie dans la région et l'aurait fondée sur le territoire de la ville de Nîmes, l'antique capitale des Volsques Arécomiques. Cette dernière devient maîtresse de 24 bourgs considérables qui constituent l'un des principaux oppidas de la celtique méditerranéenne. Lors de sa construction, la maison carrée est dédiée par Auguste à la gloire de ses deux petits-fils, les consuls et chefs militaires Lucius Caesar et Caius Julius Caesar. Au fil des siècles, le temple est notamment devenu une maison consulaire, une église, puis un musée des arts antiques. Il s'agit aujourd'hui du temple romain le mieux conservé au monde. La Maison Carrée fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1840. Depuis septembre 2023, elle est inscrite, et c'est une fierté pour les Nîmois, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui en fait ici tout notre intérêt. Nous sommes donc à l'époque du Christ. Et comment se concevait la santé, la médecine et plus largement à l'époque romaine? C'est là le sujet de notre émission de ce jour. Nous avons donc la grande joie de recevoir pour nous en parler Madame Raffaella Gaffa, qui est chargée d'études au musée de la Romanité de Nîmes dans le service des collections. Le musée de la Romanité de Nîmes se trouve 6 rue de la République à Nîmes. Bonjour à vous, Raffaella Gaffa.
Bonjour.
Et merci de votre présence et de votre participation à notre émission « Votre santé, un trésor ».
Merci pour l'invitation.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que le musée de la Romanité de Nîmes ?
Le musée de la Romanité est le musée archéologique de la ville de Nîmes. Donc, il rassemble les collections archéologiques entre l'époque pré-romaine et l'époque médiévale, avec une partie très importante des collections d'époque romaine. C'est un musée qui a été, voilà, qui a maintenant 5 ans, mais qui existait sous une autre forme auparavant dans l'ancien collège des jésuites. Mais aujourd'hui, voilà, on a un écrin tout nouveau qui met en valeur les collections et qui accueille un public, des visiteurs, un nombre très important.
Alors, tout le monde connaît ce musée parce qu'il est dans un écrin exceptionnel en face
de l'amphithéâtre
de Nîmes, qui vaudrait lui aussi une reconnaissance au patrimoine de l'UNESCO, de l'humanité par l'UNESCO, mais c'est peut-être une deuxième étape de la municipalité de Nîmes, un projet. Les collections qui concernent la préhistoire ne font pas partie du musée.
Alors, les collections qui concernent la préhistoire sont conservées au Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Nîmes. Et ça, c'est un partage qui remonte à, disons, au 19e siècle. Et lors de la création du musée de la Romanité, disons que le choix dans le cadre du projet scientifique et culturel qui est à la base du musée a été de rester sur ces trois périodes.
D'accord.
Proto-histoire, époque romaine, époque médiévale.
Alors, une petite anecdote, j'ai eu l'occasion d'amener mes étudiants en médecine 4e, 5e année, faire des cours hors de la faculté, justement, au musée d'histoire naturelle et dans le domaine de la préhistoire. Et au niveau santé, c'est passionnant parce qu'il y a des crânes qui ont subi des trépanations.
Absolument, ouais.
Donc des marques importantes et des trépanations qui ont marché puisque les crânes osseux, les plaques notamment des crânes de la voûte, bien évidemment du crâne, ont repoussé. Donc ils montrent que les trépanations préhistoriques ont marché. Et donc il y a toute une démarche diagnostique et thérapeutique qui est intéressante à se voir. Mais le musée de la Romanité donc s'intéresse à la période pré-romaine, bien évidemment romaine, et puis post-romaine, l'antiquité, ce qu'on appelle actuellement l'antiquité tardive.
Tardive, mais jusqu'à à l'époque médiévale, au 14e, 15e siècle.
Ah, quand même, jusqu'au.
Oui. On a des collections qui arrivent, qui datent en fait, qui sont plus tardives.
Donc, d'accord, très bien. Donc, vous êtes chargé d'études au musée de la Romanité de Nîmes dans le service des collections. Alors, à quoi consiste donc votre métier ?
Alors, je suis chargée des collections dans le cadre de la conservation du musée de la Romanité. Le musée de Nîmes, c'est un musée de France. Donc, à la tête de ce
musée. C'est un musée national, donc ?
Alors, c'est un musée municipal. Les collections sont de propriété de la ville de Nîmes, sont municipales. Mais il a le label Musée de France, qui est un label national, et donc il est régi par la loi sur les musées de début des années 2000. Les collections sont des collections municipales, mais publiques. Voilà, mais pas nationales. Voilà, elles appartiennent pas à l'État, mais à la collectivité. À la collectivité de Nîmes, dans ce cas. Donc, à la tête des musées de France, il y a un conservateur du patrimoine. Dans notre cas, c'est M. Nicolas Delarquier.
Donc, il se trouve sur Nîmes.
Absolument. Ouais. Oui. Et on travaille sur, les collections. Donc, pour ce qui me concerne, je travaille sur les collections, donc sur l'informatisation, l'étude des collections. Mais comme nous sommes une petite équipe, on est amené à travailler dans plusieurs domaines. Donc, par exemple, je suis associée au travail sur les expositions, les expositions temporaires que nous, mettons en place.
Quand vous dites que vous êtes une petite équipe, vous êtes combien à peu près,
je crois, on est 11.
Une équipe moyenne, alors je dirais, parce que j'ai connu des petites équipes de 2 ou des petites équipes de 1. Alors là, c'est vraiment des petites équipes.
Disons que oui, mais le musée de Nîmes, c'est le musée de la Romanité, c'est quand même un musée qui a, une activité assez dense au niveau de tout ce qui est gestion des collections, mais aussi exposition, prêt, relation avec les publics. Donc, en fait, ça peut sembler pas mal, mais on fait face à pas mal
de
demandes. Mais disons que pour travailler dans des conditions optimales, il faudrait que l'équipe soit un tout petit peu renflouée. Mais bon, c'est pour l'instant.
Et permettez-moi ici de remercier tous les membres de cette petite équipe et de son dirigeant pour votre présence et toutes les explications que vous nous avez données sur la santé et la médecine, autant de la maison carrée, de sa construction. Donc, je vous le rappelle, c'est une construction qui est. Autant du Christ, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est un temple que les premiers chrétiens nîmois. Ont connu. Et...
Oui. C'est vrai qu'elle est placée à cheval entre la fin du 1er siècle avant et le début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, pour ce qui concerne la médecine à Nîmes à cette époque-là, je vais partir un peu de généralité qui concerne Rome.
Parlez-nous maintenant de ce que l'on nommait, on va faire santé et médecine. Est-ce qu'on peut définir la médecine par rapport à la santé ? Alors, parlez-nous maintenant de ce que l'on nomme aujourd'hui la santé, mais c'est une notion moderne, la santé, dans l'Antiquité, ça n'existait pas au terme de santé, mais qui avait certainement une autre appellation à l'époque. Alors, notre santé, ce qu'on appelle la santé actuelle, c'était quoi au niveau de la vie des Romains ?
Disons que pour les Romains, le fait de s'occuper du bien-être, de la de la santé, ils utilisaient, bon, il y avait quand même le terme de Salus,
Salus.
Qui est quand même, voilà, c'était une divinité. Donc, il faut préciser que dans le cadre de la, du monde romain, il y a une médecine, entre guillemets, traditionnelle, qui est souvent liée à la connaissance de plantes, une connaissance empirique, et qui est souvent liée aussi à, au côté magico-théologique. Donc ça, c'est un aspect qu'on trouve à Rome, qu'on trouvait aussi en Grèce, et qui peut être représenté par le fait que, par exemple, à Rome, on trouve auprès des temples, on trouve des ex-voto qui prennent la forme de partie du corps humain. Mmh. On a des textes écrits sur des petites tablettes en métal où, en fait, on remercie pour avoir été soigné, on remercie la divinité. Donc ça, c'est un aspect qui existe dès l'origine de Rome, mais pas que à Rome, là on parle de Rome, mais, et qui va continuer à exister tout le long de l'histoire de la romanité. Et à côté de ça, on a en revanche la médecine au sens propre, qui naît en fait en Grèce sur l'île de Kos avec Hippocrate, qui est considéré le fondateur de la médecine moderne, puisque en fait ce médecin grec va séparer la médecine de tout ce qui est côté magico-théologique. Donc il va la fonder en tant que discipline qui se base sur l'observation et l'analyse des symptômes, sur la recherche des causes de la maladie, et il est aussi, lui, considéré le médecin qui a fondé aussi le côté, disons, déontologique de la profession.
Alors, je vais éclairer deux choses. D'abord sur les ex-voto. Alors, c'est passionnant parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Grèce à Épidaure. Hier, on a retrouvé des ex-voto encore. Et là, je rentre de Crète. Mmh. Et donc, dans les églises crètes, qui sont des églises orthodoxes, qui sont rattachées au patriarcat de Constantinople, hein, et non pas à celui de Grèce, il y a énormément d'ex-voto, de membres, de gens, etc., qui sont accrochés aux icônes, notamment. Et donc, on retrouve ces ex-voto actuellement en Crète, alors que ça se retrouve moins dans la culture européenne et française. Et Hippocrate est encore très important pour les médecins, puisque les médecins deux serments. Hein, le serment d'Hippocrate, une fois que leur thèse est tenue, tous les médecins prêtent le serment d'Hippocrate. Et, il faut le savoir, avant la Révolution, les médecins prêter serment sur la Vierge et sur Saint-Luc, mais depuis la Révolution, les médecins prêtent serment aussi sur Apollon, donc qui rejoint la médecine romaine.
Oui.
Et pour vous, pour compléter un peu sur Hippocrate, les Grecs sont les inventeurs de la raison, et c'est la médecine d'Hippocrate. Mmh. On passe d'une médecine magique et divine, théologique, puisque chez les Grecs et les Romains, tout était théologique et tout était religion. Hippocrate fait un peu de la raison, de l'observation, et sur ces observations qu'on utilise encore aujourd'hui, cette manière de clinique, ce qu'on appelle la clinique, Hippocrate invente ce que l'on appelle la médecine moderne.
Et d'ailleurs, à Rome, ce type de médecine arrive, suite à la, aux guerres que Rome mène contre la Grèce. On sait qu'après ces guerres, on a des richesses, mais aussi des esclaves et aussi des personnes, des Grecs, qui vont en fait venir à Rome. Et donc, parmi ces personnes, on a pas mal de médecins. Il y a des médecins, qui vont pratiquer ce type de médecine et qui vont finalement faire évoluer à Rome la médecine. Donc, on va continuer à voir ce côté, plutôt cette médecine de type traditionnel, de type magico-religieux, qui reste souvent d'actualité auprès des populations plus modestes. Mais par exemple, les élites vont assez rapidement avoir à leur service des médecins grecs. Et cette tradition sera reprise par les empereurs qui vont avoir leurs médecins. Et les médecins, ils ne sont pas tout le temps mais souvent d'origine grecque.
Un éclaircissement qui peut être intéressant, parce que je suis acupuncteur, donc j'ai fait des études d'acupuncture, j'ai pratiqué l'acupuncture, et peu de gens le savent, même les acupuncteurs. L'acupuncture, en fait, est une médecine alchimique. Alors, ce qui est passionnant, parce que je suis féru d'histoire et je m'intéresse beaucoup à l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut, en étudiant l'acupuncture, notamment les cinq éléments et le yin yang, revenir à l'alchimie grecque. L'alchimie est partie de la Grèce, envahie, et il y a eu des contacts, il y avait des contacts énormes qu'on ne connaît pas, mais il y avait beaucoup de contacts entre la Chine antique et l'Empire romain. Et par exemple, la quintessence dans l'alchimie grecque et romaine, on le retrouve dans le cinquième élément de la médecine chinoise. Donc tout ça basé sur le pentagramme. Donc c'est de l'alchimie qui vient de la... Et donc on se servait de cette alchimie dans la médecine antique, et notamment à Alexandrie, qui était une très très grande école de médecine, où dans les premiers siècles, avait été donné de faire des expérimentations de vivisection, non pas dissection, de dissection sur du vivant, parce qu'on considérait que l'être humain mort n'avait plus aucun intérêt puisqu'il ne vivait pas, donc il fallait disséquer le vivant. Puis par des raisons éthiques que l'on comprend bien aujourd'hui, ça a été interdit, mais les Chinois ont continué à le faire. Donc on a présenté un peu cette santé dans l'Antiquité, c'est-à-dire avec ce côté empirique de ces plantes médicinales, les minéraux aussi étaient importants, les animaux.
Disons que les produits, la plupart c'était des produits d'origine, des substances d'origine végétale. Mais ensuite, on a en effet tout ce qui est animal et minéral. Une chose qui est intéressante à noter, c'est que dans le monde grec, ensuite dans le monde romain, à côté des médecins, il y a, et parfois les figures coïncident, mais il y a des cueilleurs et aussi des préparateurs.
Oui, c'est ça.
C'est
les prémices de la pharmacie.
Voilà, absolument. Il y a des médecins qui vont, rassembler dans la même personne ses capacités. C'est le cas, par exemple, de Cels, on parlait de médecin grec, lui, c'est un Romain, et ça a été un excellent Romain qui a vécu à l'époque d'Auguste, justement, qui a écrit des ouvrages, qui a inventé une cinquantaine d'outils pour le traitement de pathologies particulières. Mais par exemple le côté minéral, on sait que on a dans le cadre de par exemple de l'Iliade, on sait que Achille a été instruit par Chiron à la médecine, et Achille, il soigne avec des sels de fer une blessure. Et en fait les sels de fer étaient utilisés comme cicatrisant. Ça c'est pour faire un exemple, mais il y a des quantités vraiment très importantes de il y avait des centaines de références entre guillemets que les pharmaciens, on peut les appeler comme ça, connaissaient dans l'Antiquité. Et on connaît des recettes parce qu'il y avait des éléments qui étaient associés de façon simple, ou des recettes qui allaient du très simple au très complexe. Donc en fait, la médecine antique, c'est une médecine qui est vraiment extrêmement riche en remèdes, en propositions. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une énorme quantité une quantité importante de textes qui nous montrent que en fait, ces médecins pouvaient être vraiment très compétents dans le domaine de l'ophtalmologie, de la gynécologie, de la cure des blessures. Parce que c'est vrai que la médecine militaire a eu un rôle très important, notamment dans tout ce qui est traumatologie et soins des blessures.
Vous apporter quelques petites anecdotes personnelles. Pour les gladiateurs, par exemple, c'était très très important les soins, les traumatismes, et on connaissait. on connaissait et les points d'impact mortels, donc c'est très très important parce qu'il y avait une notion de l'anatomie, donc j'ai eu l'occasion de travailler, puisqu'on connaissait l'anatomie pour des ponctures de guerre mortelles, donc on connaissait la circulation sanguine avant l'invention du XVIe siècle. Mmh. Il ne faut pas oublier que les Romains faisaient des césariennes, d'où le grand César est né. Mmh. Malheureusement, les mères ne vivaient pas, on sauvait l'enfant, mais les mères ne pouvaient pas vivre comme aujourd'hui. Puis je peux vous raconter une anecdote que j'ai vécue en tant qu'externe à l'hôpital de Nîmes quand je faisais mes études. J'ai eu l'occasion de soigner quelqu'un qui venait de Mongolie et qui, en catimini, une fois que la visite était passée, comme j'étais un jeune médecin, qui m'a montré un linge qui a déplié, qui m'a montré une médication qu'il prenait, c'était une vésicule d'ours séché. Donc vous voyez qu'on peut utiliser beaucoup de produits en médecine traditionnelle, qu'on retrouve d'ailleurs en médecine chinoise, mais qui était dans l'Antiquité très utilisé.
Oui, ben les Romains, dans les produits d'origine animale, à part le lait, le miel, ces produits, ils utilisaient de la bile de tous les animaux, de l'urine, des produits qui n'étaient pas forcément, disons, qui n'avaient pas forcément un effet, mais qui étaient considérés comme des médicaments, en fait.
Très bien. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus 103.2 FM. Mais aussi, vous pouvez nous écouter à Nîmes en DAB+, ou sur radioalliance.fr. Nous recevons aujourd'hui Madame Raphaëlla Gaffin, qui est chargée d'études au Musée de la Romanité de Nîmes, dans le service des collections, et qui nous parle de la santé et la médecine au temps de la Maison Carrée. Je vous propose une pause musicale en écoutant Hélène Grimaud, Mozart, le concerto pour piano numéro 23, le deuxième mouvement, l'Adagio. Donc on vous remercie, Madame Raffaella Gaffa, de nous parler de la santé et de la médecine à Rome, et notamment au temps de la Maison Carrée. Alors, les médecins, à cette époque?
Donc, les médecins, disons que à Nîmes, on a trois épitaphes qui nous permettent de savoir qu'il y avait des médecins qui travaillaient. Donc, on a deux hommes et on a aussi une femme, ce qui est très intéressant. Donc, les femmes pratiquaient également la médecine. Elles étaient peut-être plutôt cantonnées au côté, disons, de la naissance, du côté de la gynécologie. Mais, alors, cette inscription, malheureusement, est perdue pour nous. Mais on en a la transcription. Et donc, on a une dame qui s'appelait Flavia Edones Medica.
Bon, donc une femme médecin.
Voilà, absolument. Donc, les médecins, disons que jusqu'au IIIe siècle, il n'y a pas dans le monde romain des examens, des éléments officiels qui permettaient de, de prouver que la personne était apte. Donc c'est vrai que dans le cadre de la pratique, il y avait des personnes qui étaient parfaitement formées et parfaitement compétentes et des personnes qui l'étaient moins. Mais disons que le fait de faire avoir recours à un médecin dès l'époque d'Auguste devient quelque chose, disons qu'il y a dès le début de l'époque impériale, une tentative d'organiser une sorte de service public, donc de médecins qui pouvaient être à la disposition aussi des personnes qui n'avaient pas les moyens de payer.
Une prémisse de sécurité sociale. Quoi.
Voilà, on peut dire.
Est-ce qu'il y avait des corporations de médecins ou de soignants?
Alors, il devait y en avoir. Là,
mais ça, il n'y a pas de...
Je ne saurais pas vous dire, parce d'accord. que c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'éléments dans ce sens, mais je ne peux pas dire qu'il n'en existait pas. Je dis que je ne sais pas.
Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie infiniment pour tout ce renseignement et cette ambiance qui est créée autour de la Maison Carrée, de cette reconnaissance par l'UNESCO qui intéresse tous les Nîmois. Mais avant de nous quitter, j'ai pris l'habitude d'une rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé. Aujourd'hui, je ne vous propose pas de livre, mais de vous rendre au musée de la Romanité de Nîmes, qui se trouve, je vous le rappelle, 6 rue de la République à Nîmes, et de voir et étudier les pièces des collections du musée consacrées à la santé, à la médecine chez les Romains. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.
Alliance Plus.